tous, vous écoutez Ondes Positives, une parenthèse calme, sincère et positive dans une actualité un peu lourde. Alors venez dériver tranquillement avec nous pendant une heure et écoutez Stéphanie Marsan que je reçois aujourd'hui. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Dorothée.
Et merci d'ores et déjà pour ton témoignage. Stéphanie, tu as 40 ans, tu es d'origine landaise.
Oui.
Et installée à Montauban depuis 8 ans.
Oui.
Tu es une ancienne directrice commerciale reconvertie récemment au métier de conseil en fiscalité et en patrimoine pour tous.
Oui.
Alors tu nous expliqueras en quoi consiste ton nouveau métier un peu plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Parce que d'abord, on va parler de ton message positif qui est le suivant. Se perdre pour mieux se retrouver.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que ça veut dire que se perdre est un passage obligé pour mieux savoir qui on est après ?
Alors, passage obligé pour tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, oui, ça a été le cas.
Mm-hmm.
Voilà, j'ai eu un chemin un peu sillonneux dans ma vie.
Mm-hmm.
Qui a fait que, à un moment donné, je me suis un peu perdue de la personne réellement de qui j'étais.
D'accord. Voilà. Donc c'est ton expérience et c'est celle-là que tu vas nous raconter.
Mmh.
Tu t'étais perdue professionnellement en partie et
ouais.
Tu t'es retrouvée. Alors il faut dire que tu as passé le début de ta vie professionnelle à jouer Wonder Woman.
C'est à peu près ça.
Alors c'est agréable de se sentir Wonder Woman.
Ah ben à l'époque je le croyais.
Ouais.
Voilà à l'époque oui. J'étais Wonder Woman. Bon, j'avais pas mon petit short sexy et mon lasso, mais mm-hmm. c'était pas loin. En effet, j'ai remis en situation j'ai remonté en fait des situations critiques.
Ouais.
Voilà, j'ai mis en position de rentabilité des sociétés qui étaient déficitaires ou mm-hmm. des régions déficitaires. Donc il faut pas mal d'énergie pour faire tout ça.
En fait, alors tu t'étais fait une spécialité d'arriver dans une entreprise en tant que cadre commercial pour y relever des challenges.
C'est ça.
Donc à chaque fois, confronté à des situations difficiles que tu reprenais, soit en termes difficiles en termes financiers, donc déficitaires, soit difficiles en termes humains, des équipes mal organisées qui s'entendent plus, etc.
Mm-hmm.
Et toi, tu t'y arrivais, tu faisais le ménage avec le lasso et les bottes dorées.
C'est ça. Je faisais, voilà, ça. Je faisais le ménage et puis surtout, j'avais à cœur de fédérer l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaillais.
Mm-hmm.
Alors, quand on prend les gens qui sont dans des situations critiques, faut remettre tout le monde en ordre de marche, mais tout en étant vigilant à ce que eux aussi soient bien pour qu'ils puissent produire et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc,
d'accord.
J'étais quand même très attachée à ça.
Mm-hmm.
Mais à contrario, je m'épargnais pas forcément moi.
D'accord. Ouais. Et alors, une fois que tu avais réussi ta mission dans l'entreprise, tu te laissais séduire par d'autres opportunités.
Voilà, c'est ça.
D'autres entreprises venaient te débaucher et donc ta vie c'était un peu un défi permanent.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que inconsciemment, une fois que ma mission de remettre tout à plat ou de relever la situation était faite,
mm-hmm.
Je déclenchais d'autres opportunités pour repartir dans cette mécanique-là où il fallait que je relève encore tout à bout de bras,
mm-hmm.
au lieu de profiter de ce que j'avais mis en place et de les laisser rouler simplement. Non,
ouais.
Il fallait que j'aille encore chercher ces défis-là.
Quand tout roulait, ça t'intéressait plus vraiment en fait.
Oui, en fait, je pense que ça m'intéressait plus vraiment, quoi. Aujourd'hui, j'en ai conscience en ayant pris le recul et en regardant ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça.
D'accord. Et avec le recul, justement, tu sais aujourd'hui pourquoi tu provoquais ce genre d'expérience, toujours dans le défi, toujours dans le challenge?
Avec l'expérience, alors, j'ai plusieurs choses. J'ai des personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis d'analyser tout mmh. ça aussi. En fait, j'ai une mécanique depuis l'enfance qui est que mes parents déménageaient beaucoup, que je déménageais beaucoup.
Mm-hmm.
Donc c'était un éternel renouveau.
D'accord.
Avec alors pas forcément des déménagements physiques, mais des changements d'école, etc., etc.
Ouais.
Donc il fait que ça se renouvelait et donc mm-hmm. quelque part j'avais moins incrémenté cette mm-hmm. mécanique-là. En moi.
Et tu la reproduisais dans ta vie d'adulte, en fait.
Voilà, tout mm-hmm. à fait. Je la reproduisais dans ma vie d'adulte. Je l'ai reproduit, moi aussi, en déménageant géographiquement assez souvent, ou quand je restais en interne dans une même société, ben, je changeais de poste également tous les 2 ans. Donc cette mécanique-là, ben, je l'avais incrémentée dans mon inconscient, dans ma mémoire, et pour mon inconscient, c'était le seul mode de fonctionnement qu'il connaissait.
Voilà. D'accord.
Et après, relever les défis et le challenge, ça c'est un autre aspect aussi. J'ai évolué dans des univers très masculins, donc il fallait que je prouve que je savais aussi bien faire, voire mieux faire que les hommes avec lesquels je travaillais.
D'accord.
Donc là, on est plus peut-être sur une relation oedipienne, où voilà, il fallait que je prouve à l'époque peut-être à mon papa et au travers de mon parcours professionnel, voilà, que moi aussi je savais faire plein de choses et que je savais sortir de nul n'est tenu à l'impossible.
Oui.
Donc voilà.
Et tu dis d'ailleurs que tu disais à cette époque, je suis un garçon dans un corps de fille.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Donc tu te sentais plus masculine, plus une énergie masculine que féminine, si je comprends bien.
Oui, oui, c'est ça. Toujours. Enfin, moi, j'ai toujours été avec mon papa tout le temps. Donc j'allais à la chasse avec lui, j'allais à la pêche, je bricolais. Donc voilà, est-ce que lui inconsciemment attendait un garçon et quelque part j'ai incrémenté ça aussi, c'est possible. Donc du coup, ben, c'était moi l'homme de la famille ou le garçon de la famille.
D'accord.
Et après je suis restée dans des univers masculins, ce qui fait que ça n'a fait que conforter cette mécanique-là.
Ouais.
Et du coup, ben, comme ça l'a conforté, je m'y confortais moi-même aussi. Et même dans ma façon de communiquer avec les gens, j'avais une façon plutôt très masculine dans ma communication qu'une communication féminine. Et d'ailleurs aussi, pendant un certain temps, j'avais du mal à manager des équipes féminines. Et je préférais manager des équipes masculines.
Alors, tu peux nous donner un exemple de communication masculine? Tu penses à quoi?
Ah ben, enfin, dans ma façon de penser, pour moi, la communication masculine, c'est quelque chose de très très direct.
Oui.
C'est très cash. On va dire ce qu'on a à dire. C'est pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Hein, donc, en général, je prends la ligne droite.
Oui.
Et on se dit ce qu'on a à dire. Si on a, excusez-moi des propos, mais envie de se dire merde, on va se dire merde. Mais après, clac, on passe à autre chose. Quoi.
D'accord.
Ça va pas nous empêcher de boire un café. Enfin. Voilà, on
c'est
passe
frontal.
C'est plutôt frontal.
D'accord.
Voilà, c'est plutôt une communication rubistique, bien en face. La vérité se dit, et après on avance. C'est une méthode. C'est pas forcément toujours la meilleure méthode. Et pendant un certain temps, c'est celle que j'ai utilisée.
C'était celle qui te convenait à l'époque.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et de temps en temps, ça rentre en dissonance, parce que quand on manage des hommes qui voient un bout de bonne femme arriver.
Oui, parce que t'es pas du tout masculine d'apparence. Hein.
Voilà, donc ils se disent, bon, on va avoir plus de rondeur ou autre. Et en première réunion, j'expliquais voilà, que en fait, de moi, j'étais un garçon dans le corps d'une femme.
D'accord.
Que j'étais pas là pour me faire spécialement des copains. On était là d'abord pour avancer tous ensemble. Ce qui est un peu faux, parce que quand on annonce ça haut et fort, parce qu'en général, l'empathie est très forte derrière, donc je voulais peut-être la camoufler par ces propos-là. Voilà. Donc, oui, il y en a plein qui m'ont dit, ils m'ont dit, putain, la première fois qu'on t'a vu en réunion, tu nous as exposé ça, mais alors ça nous a scié, quoi. Il me dit, et après on a appris à te connaître, et après on a appris que tu savais être ronde, etc.
Ah ouais, voilà.
D'accord. Je cachais tout ça.
Donc il y avait un petit peu de dissimulation quand même inconsciente dans ce discours-là.
Oui, oui, je pense, ouais. Oui, je pense.
Alors Stéphanie, on partage tout de suite une des chansons qui a bercé ton adolescence et on en parle juste après. C'est Au bout de mes rêves, Goldman.
J'irai au bout de... Je garderai la blessure. Au fond de moi, tout au fond. Mais au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom.
Au bout de mes rêves, Goldman. Alors Stéphanie, quand tu changeais de travail avec un challenge toujours plus compliqué à relever, est-ce que tu avais l'impression que tu allais jusqu'au bout de tes rêves ?
Alors à l'époque, oui, puisque c'était mon mode de fonctionnement. Mm-hmm. Et puis derrière, oui, j'avais aussi des rêves personnels que je voulais réaliser. Mm-hmm. Et donc le travail était aussi un outil et un moyen de pouvoir accéder à ces rêves-là, quoi. Mm-hmm. Donc,
en gagnant de l'argent, par exemple.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui. En fait, moi, j'ai un rêve depuis toute petite. C'était au départ de pouvoir offrir la maison de mes parents, mm-hmm. Ce que je n'ai pas encore réalisé. Et surtout, de l'autre côté, je suis très, très attachée à la maison familiale dans laquelle mm-hmm. j'ai grandi dans les Landes.
Oui.
Et donc, en objectif, ça a toujours été de conserver cette maison-là, quoi qu'il se passe.
La conserver, pouvoir la racheter. Et...
Voilà, tout à fait.
Et la donner à tes parents ou y vivre toi?
Alors, y vivre nous, enfin, en faire quelque chose, mais garder et conserver ce patrimoine-là dans la famille. Et voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui a toujours été très, très fort. C'est-à-dire que dans mon esprit, c'était pas possible que la maison parte dans une autre famille.
D'accord.
Donc quand j'étais petite, je ne voyais pas les outils ou les moyens pour mettre tout ça en œuvre. Mm-hmm. Et puis, au fil du temps, ça s'est dessiné. Et puis là, ça s'est bien confirmé ces dernières années. Donc voilà, quoi. Et puis également, mais ma propre famille, pouvoir la mettre à l'abri du besoin, mm-hmm. Un toit... et tout ce qui va bien et se faire plaisir. Donc voilà.
Ouais, ça passait dans ta croyance par avoir des bons boulots avec certes une grosse responsabilité, beaucoup de défis, mais également un bon salaire.
Voilà, tout
d'accord.
À fait.
Et qu'est-ce qui te faisait tenir le coup parce que le quotidien d'une business Wonder Woman, c'est un peu hard, hein. C'est 6 heures du matin, 20 heures le soir, non-stop, tout le temps.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça court. On court beaucoup. Mm-hmm. On prend beaucoup de choses à cœur. Enfin, du moins, moi, c'était le cas. Qu'est-ce qui m'a fait tenir le coup? Relativement dans mon travail, j'aimais ce que je faisais. Après, je suis quelqu'un d'entier. Donc, quand je prends une fonction, quand je prends un dossier, un travail, je vais jusqu'au bout. Et puis voilà, après j'ai toujours été quand même dans des univers de travail où la relation avec mes collègues ou mes collaborateurs se passait bien, donc mm-hmm. on va dire il y a une dynamique humaine qui était là qui faisait que ça me tenait également debout, mm-hmm. De pouvoir travailler avec des collaborateurs, défendre leur cause aussi, mm-hmm. et puis développer le business, apporter des services et des conseils à mes clients, quel qu'il soit, dans les différents postes sur lesquels j'ai travaillé.
D'accord.
Donc, les métiers que j'ai faits m'ont toujours plu à ce niveau-là. Donc voilà. Et également, j'avais une culture travail qui a toujours été très 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 forte d'un point de vue aussi familial, quoi.
D'accord.
Moi, mes grands-parents avaient deux travails. Un était maçon et il était agriculteur. Un travaillait dans une coopérative agricole et agriculteur aussi.
Donc tu avais tout le temps vu ta famille beaucoup travailler, quoi.
Voilà,
c'était normal
ça.
Pour toi.
Donc c'était normal.
Mmh,
certes, au milieu, les enfants en ont un peu pâti parce que 6 heures du matin, c'est charger le petit dans la voiture, les couvertures et turbulettes avec et partir vite fait chez la nounou, trouver des nounous qui puissent prendre les enfants aussitôt le matin aussi et puis rentrer le soir et courir. Donc moi je le vivais pas forcément mal parce que c'était dans mon énergie, mais je pense que ça a pas forcément fait du bien à mes enfants. D'accord. À cette période-là, quoi.
Alors, tu vas fonctionner comme ça pendant plusieurs années, hein, un peu plus de 10 ans. Et puis, tu vas commencer à constater que tu te sens de plus en plus responsable des situations difficiles dans lesquelles tu arrives. Et que ça t'affecte de plus en plus. Et le premier déclic dont tu m'as parlé, c'est chez ton avant-dernier employeur, lors d'un inventaire des stocks.
Ouais.
Tu peux nous expliquer?
En fait, donc on a fait un inventaire qui était un inventaire, ce qu'on appelle intermédiaire, dont je n'étais pas responsable, puis c'était l'ancienne direction. Je prenais la suite d'une direction, donc il fallait refaire l'inventaire pour clôturer. Et à ce moment-là, je m'aperçois, enfin j'avais déjà relevé plein de dissonances en 2 mois, et là j'ai une grosse dissonance qui me saute à la figure, qui fait que les collaborateurs avec lesquels je travaillais étaient en gros dysfonctionnement, qui avait du vol en interne, enfin des choses comme ça. Et donc tout d'un coup, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas les sauver parce que eux-mêmes ne voulaient peut-être pas se sauver, quoi.
D'accord.
Et là, c'est venu en frontal, voilà, si bien que quand je suis sortie de là. Je suis rentrée chez moi, je crois que j'en ai pleuré toute la nuit. J'ai appelé un confrère, je lui ai dit « non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir sauver là la situation puisqu'ils veulent pas se sauver eux-mêmes. » Et j'en ai appelé ma direction le lendemain pour leur dire « bah écoute, on se voit 6h du matin ». Donc j'ai vu à ce moment-là ma direction à 6h du matin, j'ai dit « là pour moi, il y a plus qu'une solution, c'est enfin ». Alors que j'étais dans ma période d'essai, enfin bon. Mais tout ça, la période d'essai, tout ça était très loin de moi. Moi, j'étais dans l'état des faits actuels et que là, ça devenait compliqué.
D'accord. C'est la première fois que tu passes une nuit à pleurer parce que tu constates une situation plus compliquée que ce que tu imaginais au départ.
Oui, c'était la première fois.
Donc tu vas pas écouter ce signe qui est de passer une nuit à pleurer, et puis tu vas pas écouter non plus forcément tous les autres, l'ulcère à l'estomac, le quasi burn-out, hein. Tu continues à travailler et tu jusqu'au moment où tu te fais chasser. Alors c'est un terme pas très beau, mais c'est comme ça qu'on dit dans le monde de l'entreprise quand on a un haut poste à haut potentiel, on se fait chasser par un chasseur de tête. Et que tu acceptes une autre opportunité autre part, selon ta logique, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, suite à tout ça, ben, je me remets en ordre de travail. Je redéfinis complètement la réorganisation. Je remets tout à plat. Et là, mon objectif était de dire, bon, mais au moins, je remets tout à plat. J'assainis la situation là pour que derrière, ça puisse repartir et être reconstruit. Et en mettant un cahier des charges de sortir en zone de rentabilité à peu près sur 5 ans.
D'accord.
Donc, je définis tout, les budgets, je réorganise, on met tout en place. Je remets en ordre de marche certains collaborateurs que j'ai gardés. Voilà, en leur expliquant clairement la situation, ce qu'il en était. Puisque moi, l'une des premières valeurs qu'on m'a apprises dans le management et dans la gestion, c'est la transparence. Et plus on est transparent, plus on peut donner du sens à ce que l'on fait, et plus on peut derrière impliquer ou faire en sorte que les gens se sentent responsables de ce qui se fait à chaque bout de la chaîne au niveau d'une société. Donc j'ai fait tout ça, on est venu me chasser en effet après tout ça.
Ouais.
Une fois que j'avais mis tout à plat, que tout était bon, et donc voilà, je suis repartie puisque j'étais toujours dans ma logique.
Ouais, ouais.
Une fois que la situation a été sauvée, clac.
D'accord.
On change.
Mais quand même, pourtant, lorsqu'on vient te chasser et que tu passes les entretiens d'embauche, là, il y a un deuxième signe.
Ouais, en fait, je passe un premier entretien, tout se passe bien, très intéressant. C'est un poste en création, enfin, franchement très intéressant. Et en fait, je passe le deuxième entretien avec cette fois-ci donc le PDG présent. On échange. L'échange est très cordial, convivial. Enfin, je sens une autre dynamique sympa. Et il m'explique qu'en fait, la société fait partie d'une holding financière. Mmh. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'entends un chling, un son de cloche.
Oui.
Et une sensation de dire aïe. Mais bon, comme aller à côté m'avait l'air plus avantageux, je n'ai pas écouté ce son de cloche.
D'accord. Donc, tu es, au moment où tu entends ce son, tu es tout à fait consciente qu'il peut vouloir dire n'y va pas.
Oui, 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 oui.
Et pourtant, tu y vas quand même.
Et pourtant, j'y vais quand même.
Parce que parfois, on n'a pas envie de les entendre, ces signes, et on est dur avec soi-même.
C'est ça.
D'accord. Donc, tu y vas quand même, tu acceptes cette proposition. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
Ben, j'accepte cette proposition. Au début, tout se passe très bien. Le poste me correspond pleinement. L'émission aussi. Enfin, bon, voilà, c'était une création. Donc, il y avait tout à mettre en place, là aussi. Les clients, les produits, le marché. En fait, tout me correspondait. Sauf que, il s'avère que la société est en situation financière extrêmement critique. Du part de fonctionnement en holding aussi financière. Et que, ben voilà, donc moi j'étais en période d'essai, quand on est cadre, en général on signe des renouvellements, donc j'ai eu une période d'essai totale de 6 mois, ce qui est à peu près la moyenne sur ces postes-là. Et 2 jours avant la fin de ma période d'essai, ben on m'annonce le vendredi soir, 17h30, que c'est fini, qu'on ne renouvellera pas.
D'accord.
Et donc... j'avais bien compris que c'était dû à des problématiques financières, donc c'était pas...
Et pas à ton travail.
Et pas au travail. Donc forcément, il faisait une économie de salaire de cadre avec les charges qui vont avec, ce qui peut être aussi compréhensible dans une situation critique. J'aurais eu préféré de la franchise et de l'honnêteté à ce moment-là. Et donc, je suis partie et je me suis retrouvée au chômage.
Alors, comment tu vis ça, le fait de t'investir dans une société pendant 6 mois, d'y croire, de commencer à faire ton boulot avec toute la conscience professionnelle, l'énergie qui te caractérise, et de voir que l'employeur, il attend le dernier jour ou enfin l'avant-dernier jour de la période d'essai pour rompre le contrat. C'est plutôt de la colère ou c'est du soulagement? C'est quoi?
Là, c'était un peu les deux, mais je pense que j'étais plus dans le soulagement.
D'accord.
Oui, j'étais plus dans le soulagement.
Alors, tu te dis quoi?
De toute façon, au vu de l'évolution dans les 6 mois que j'ai été, il y a des situations qui ne pouvaient pas fonctionner correctement, et ça allait devenir très très compliqué au fur et à mesure. Donc je dis bon ben voilà quoi. Enfin et puis quelque part je m'en doutais, donc voilà, la surprise n'a pas été absolue. C'est surtout le manque d'éducation. Voilà, je trouve que la façon dont ça a été fait n'a pas été forcément très très bonne.
D'accord.
Après avec du recul, j'ai été également soulagée puisque l'entreprise est partie dans une situation très critique, qu'elle a fait un dépôt de bilan. Et que pendant plus de 6 mois, elle a pas payé en temps et en heure ses salariés. Donc, j'ai évité, moi, cette situation-là. Que voilà, que c'était extrêmement dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel. Il y avait des équipes aussi impliquées. Enfin, il y avait de belles choses à faire. Mais ça arrêtait là. Donc, je trouvais que c'était un peu du gâchis, quoi. J'étais soulagée, mais écœurée par le gâchis total.
Donc, des émotions mêlées.
Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Donc, tu te retrouves au chômage, cadre supérieur, approchant les 40 ans. Est-ce que c'est acceptable, cette situation, pour toi?
Non.
Pas du tout.
Non, pas trop.
Ouais.
Pas trop. Forcément, je me remets dans la dynamique de chercher des postes. Je réactive mon réseau. Je me mets en chasse ce qu'on appelle du marché caché, c'est-à-dire pas forcément les annonces, ou je réponds à des annonces quand je les vois, mais c'est, je fais pas répondre à l'annonce quand je la vois, c'est-à-dire que je vais trouver les coordonnées des DRH ou des directeurs pour échanger en amont avant d'envoyer ma candidature,
oui,
etc. Donc C'est du boulot.
C'est la première fois en fait que tu te retrouves en situation concrète de recherche de travail et au chômage.
Alors c'était la deuxième fois, mais la première fois était un peu différente puisque je suis rentrée moi après directement dans le cadre de formation complémentaire et je suis allée valider l'équivalent d'un GEA. Donc j'étais dans une dynamique de formation la première fois qui m'a amenée directement sur un travail. Là, c'était pas du tout la même. Là, c'était pas pareil, quoi. Ouais. Là, c'est, voilà, on se retrouve dans sa coquille de noix et on rame toute seule parce que bon, voilà, Pôle Emploi, les pauvres conseillères, elles sont quand même un peu débordées aussi. Il y a quand même malheureusement beaucoup de monde aujourd'hui qui est à Pôle Emploi et que, par rapport aux restructurations qu'il a fait, c'est toute la masse de la population qui est mélangée. Ça va aller. Du technicien à l'ouvrier en bâtiment, à la vendeuse, au cadre supérieur, et on peut pas répondre à tout le monde de la même façon.
Oui.
Donc voilà. Donc quand elle m'avait vu arriver, qu'elle avait mis mon CV, elle m'a dit je pense que vous avez pas besoin de moi. J'ai dit non, j'ai pas besoin de vous. En effet. Ouais.
Donc tu te retrouves un peu seul sur ton bateau à devoir chercher du boulot, sachant que c'est pas forcément ce que tu es habitué à faire, parce que normalement tu te fais plus débaucher que tu ne cherches par toi-même.
Oui, c'est ça. Oui, voilà, j'avais plus l'habitude des chasseurs de tête que de me mettre en chasse pour moi-même.
Ouais. Et alors cette période d'inactivité, si on peut dire ça comme ça, parce que tu n'es pas inactive pendant cette période-là, elle va durer un an. C'est long, un an. Et tu dis, quand on ne comprend pas, la vie te le fait comprendre.
Eh oui. C'est-à-dire que, en fait, dans mon mode de fonctionnement de, entre guillemets, Wonder Woman, que j'ai été à la fois professionnellement, mais je l'ai été aussi personnellement, puisque j'ai vécu avec des personnes qui étaient aussi dans des situations un peu compliquées. Donc,
Tu faisais Wonder Woman aussi à la maison.
Voilà, c'est ça. J'avais à cœur de tout porter, ce qui n'est pas forcément non plus la bonne solution, puisque ça met pas forcément à l'aise l'autre personne et que chacun doit trouver sa place.
Ouais.
Alors que moi, il fallait que je porte tout, à bout de bras ou sur le dos. D'ailleurs, j'ai déclenché un symptôme psychosomatique qui était une douleur entre les omoplates qui m'était déclenchée suite à un accident de la route. Mais le corps avait bien pris ça en compte.
Oui.
Et de temps en temps, ça me faisait bien mal. Donc, en fait, voilà. Donc, à être Wonder Woman, finalement, dans mon évolution professionnelle, plus j'avançais, plus j'allais relever des situations qui étaient de plus en plus critiques, qui m'épuisaient, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui m'ont mis dans des situations même un peu médicales, un peu pas trop rigolotes. Et je comprenais pas. Je continuais.
Oui.
C'est bon, je sais faire. Oui, il n'y a pas de problème. Allez, j'y vais, je sais faire. Oui, il y a un challenge à relever. Ok, j'y suis.
Oui, c'est l'histoire des signes qui te sont envoyés avec le son de cloche.
Voilà, que je n'entends pas.
La nuit si difficile à pleurer et que tu ne voulais pas entendre, en
fait.
Voilà.
Et donc, tout d'un coup, ces signes-là étaient pour me dire, mais il faut peut-être t'arrêter et voir autre chose autrement. Ou peut-être faire à un moment donné le point.
Ouais.
Et puis, finalement, cette année de chômage, si ça a duré un an, c'était aussi pour ça, quoi. Parce que les entretiens, j'en ai passé.
Ouais.
Ceux qui, d'habitude, auraient abouti sur des postes ou que normalement aboutissaient sans aucun problème, là, n'aboutissaient pas.
Ouais. À chaque fois, tu te retrouvais devant des situations de blocage, des sacs de nœuds. Comme si toute la vie complotait pour que, cette voie se bouche,
oui,
pour que tu comprennes que c'était pas par là qu'il fallait aller.
C'est ça, c'est ça. C'est que en fait, c'est ça. Et les postes sur lesquels j'allais en entretien, quand j'ai changé, je me retrouvais à voir devant moi des situations que j'avais vécues en interne et en train de me dire ah non, ça j'ai vu, ça va être très très compliqué derrière. Ben voilà. Et puis au fur et à mesure, ça bouchait, ou là où ça aurait pu, puisque j'ai eu entre autres deux postes où on m'avait dit, bon mais c'est bon, on signe dans un mois, c'est bon, 15 jours après ou une semaine après, il m'appelait, ah non mais finalement la situation a changé, etc. etc. Donc là, oui, en effet, j'ai eu des barrières devant moi qui m'ont dit, non, t'es pas sur la bonne voie. Donc maintenant, il va falloir que tu le comprennes.
Alors, c'est le moment d'écouter ton deuxième morceau, Highway to Hell, autoroute pour l'enfer, d'ACDC. Highway to Hell d'ACDC. Alors pourquoi cette chanson, Stéphanie?
Pourquoi? Parce que c'est un peu le chemin finalement que j'ai fait.
Ouais. À un moment, t'as l'impression d'être en enfer?
Alors peut-être pas en enfer, mais en tout cas, j'ai plus pris le parcours du combattant que pris les autoroutes.
Oui.
Voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Bon, et après j'aime bien ACDC, donc mais je trouve que c'était bien à propos pour illustrer ça et pour surtout illustrer aussi la dernière période, les deux derniers emplois et puis la période de chômage qui. Mm-hmm. Qui est très très, enfin qui pour moi était très très compliqué à vivre.
Oui, tu m'as dit que cette période de chômage pour toi, tu avais l'impression d'être dans les méandres de la vie.
C'est ça. Ouais. Tout à fait.
D'accord. Alors bon, elle a duré un an cette période de chômage, je l'ai déjà dit. Et puis vers fin 2013, l'idée de te mettre à ton compte bourgeonne puisque tu n'arrives pas à trouver un emploi qui te correspond d'ailleurs. Mais pour faire quoi? C'est la question.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est la grande question, puisque moi, mon savoir-faire est intellectuel, pas manuel. Donc, voilà. Et donc après, moi, mon savoir-faire, c'est la stratégie et le développement de l'entreprise. Mais des cadres sup au chômage d'une cinquantaine d'années qui se mettent dans le conseil de cet ordre-là, il y en a quand même quelques-uns sur le marché.
Et toi, t'as même pas 50 ans.
Et moi, j'ai même pas 50 ans. Mmh. Et puis, également, la cible aurait été les PME et les TPE, puisque c'est plus là où il y a quand même besoin de conseils et d'accompagnement, puisque la plupart des chefs d'entreprise sont la tête dans le guidon tous les jours. Mais on cumule aussi une période de crise à côté. Et en période de crise, malheureusement, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément ni le temps, ni la perception plutôt qu'à un moment donné, ils pourraient se faire accompagner ou conseiller.
Et les finances aussi.
Hein. Et les finances aussi, tout à fait, oui. Sur cette période un peu délicate. Donc, je m'aperçois que mon idée pourrait être sympa, mais là aussi, il y a une petite impasse, la conjoncture, enfin, tout ça ne va pas aider. Donc, je vais voir ma conseillère à la PEC, du coup, avec qui j'avais gardé relation depuis quelques années, et je vais la voir et je lui expose mon projet. Elle confirme bien que c'est un peu compliqué en l'état actuel des choses. Je lui dis ouais, à la limite une formation ou autre, parce que j'ai besoin aussi de me nourrir intellectuellement. Mais aller chercher quoi? J'ai déjà un bac plus 5, je vais pas aller rajouter des lignes pour des lignes sur un CV. Au bout d'un moment, ça sert plus à grand chose. Et donc on discute et elle me dit mais justement on a eu quelqu'un il y a pas très longtemps qui lui aussi souhaitait se reconvertir professionnellement et en fait il est parti dans quelque chose qui est un peu de la gestion du patrimoine, création de patrimoine. Et ils organisent tous les mois une réunion d'information sur une ou deux journées et je sais qu'ils font ça tous les mois, voilà. Donc ce serait peut-être intéressant. Je lui dis bah oui, de toute façon, j'ai rien à perdre, bien au contraire. Et puis, ça me permettra de rencontrer d'autres personnes et de voir autre chose autrement.
D'accord.
Et voilà.
Donc, tu décides d'aller à ces deux jours d'information.
Voilà.
Et tu découvres une activité qui te plaît. Et surtout, tu t'aperçois que tu partages trois grandes valeurs avec ce qu'on est en train de te raconter.
Ouais, tout à fait. Donc, je partage trois grandes valeurs avec. La première, c'est le patrimoine. Ce que je disais préalablement, par rapport à mes rêves, qui étaient d'acheter une maison à mes parents ou au moins de conserver la maison familiale dans le patrimoine familial. Donc, c'est venu en résonance.
Oui, cette notion de patrimoine, elle te parle. Quoi.
Voilà, c'est venu en résonance. Et puis après, il y a des valeurs profondes. Qui m'ont été inculquées quand j'ai commencé le commerce, qui sont l'accompagnement des clients et le suivi sur du long terme. Donc,
d'accord.
On n'est pas là pour faire du one shot, on est là vraiment pour accompagner les gens et les conseiller vraiment dans ce qu'ils veulent avoir, dans ce qu'ils ont et dans leur projet.
D'accord.
Voilà.
Donc dans ces trois valeurs, tu te retrouves.
Oui.
Pour reprendre un peu ton message de départ, je me suis perdue et puis finalement je me suis retrouvée.
Ouais, je me suis retrouvée et l'autre élément dans lequel je me suis retrouvée, c'est le contact humain, le relationnel et un certain esprit d'équipe. Parce que quand on est cadre sup, quand on est seul. En direction de région, nos confrères sont pas forcément à côté et de temps en temps, on a plutôt tendance à s'isoler. même si on va aller sur le terrain avec ses confrères ou ses collaborateurs pour rencontrer des clients, mais on s'isole. Mmh. Et je m'étais un peu enfermée comme un ours dans sa caverne.
Ouais.
Et donc du coup là, ah ouais, si ça y est, je retrouve du terrain, je retrouve des gens, je retrouve du relationnel, je retrouve un esprit d'équipe, même si c'est que des indépendants, même si on est tous que des indépendants, mais mmh. et voilà.
Donc, d'accord.
Donc là oui, je me suis retrouvée sur ces valeurs profondes. Et ça m'a fait du bien.
Donc, tu vas suivre toute la formation. Ouais. Et aujourd'hui, tu es installée, tu as créé ton entreprise. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce métier qui n'a pas de titre aujourd'hui ?
Alors, il n'y a pas de titre. Enfin, le ouais. seul titre que j'ai, c'est chef d'entreprise, hein, ouais. comme beaucoup. Donc, en fait, moi, mon métier, ben, ça consiste à accompagner, que ce soit les particuliers ou les professionnels, mmh. Ben, à les aider à mieux optimiser leur fiscalité, mmh. Dans certains cas, à diminuer aussi leur fiscalité, et puis également à les accompagner pour ben, mieux préparer leur avenir financier, que ce soit sur la préparation de la retraite, sur des projets particuliers. Mm-hmm. Pour les entreprises, ça va être sur ben, les aider ben, à optimiser leur trésorerie, leur gestion, mm-hmm. etc., etc. C'est également ben, aider tout un chacun à pouvoir ben, déjà se constituer son propre patrimoine, mm-hmm. qu'il soit privé ou professionnel, et puis après, ben, à l'optimiser, à le dynamiser.
D'accord, donc c'est en ça que tu dis que ton conseil, il est valable pour tous.
Oui, tout à fait.
Pas uniquement pour les personnes qui ont déjà un patrimoine qu'ils voudraient gérer.
Oui, non, tout à fait. Ça commence au tout début, aux personnes qui veulent ben, déjà commencer à se constituer leur petit patrimoine à leur niveau. Mm-hmm. Puisqu'en fait, moi, mon travail ben, consiste à les accompagner à atteindre leurs objectifs à eux, mm-hmm. en lien avec leur situation.
Voilà. D'accord.
Et moi, derrière, ben, je fais une étude personnalisée et je vais leur amener les conseils et les informations mm-hmm. En lien avec les deux.
Donc, une personne seule ou un couple qui gagne un salaire tout à fait moyen peuvent quand même bénéficier de tes conseils pour bien gérer leur argent, se constituer un petit patrimoine en fonction des objectifs qu'ils ont dans la vie.
Voilà, tout à fait. Et puis, d'autant plus que ben aujourd'hui, par exemple, la question de la retraite touche tout un chacun, mmh. qu'on ait un petit ou un gros salaire. Et plus tôt on va pouvoir ben, préparer ça, enfin préparer son avenir financier pour sa retraite, ben, mieux c'est, parce que ben, l'effort va être derrière moins conséquent. Mmh. Et ben, pour tout ça, il existe tout un tas de solutions et que peu de personnes sont forcément au courant, parce que ben, mmh. on leur a pas donné les informations déjà au départ.
D'accord, voilà. Tu m'as même dit en préparant l'émission qu'en fait tu mets à la portée de tous ce qu'on pense réserver à une élite.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que quand on entend parler gestion de patrimoine, fiscalité, tout ça, on se dit bah, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui gagnent, enfin qui sont riches, qui gagnent beaucoup d'argent.
Et voilà, c'est ça. Mais tout le monde, hein, la fiscalité, ça touche beaucoup de personnes, mm-hmm. ça touche aussi les sociétés. Voilà, et l'optimisation de ce que l'on a, que l'on soit un particulier ou une entreprise, ben c'est aussi important et de connaître ben quels sont les leviers ou les mécaniques qu'on peut utiliser pour optimiser et dynamiser tout ça.
D'accord. Voilà. Alors d'avoir changé de métier, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie ?
Alors ben, déjà me retrouver, mm-hmm. c'est-à-dire moi retrouver qui j'étais, retrouver la pêche, la dynamique. Mmh. L'avantage aussi de mon métier, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est des indépendants, mais on est en lien les uns avec les autres, donc il y a un esprit d'équipe. Les fameuses réunions d'information auxquelles j'ai assisté, ben, je les anime moi aujourd'hui. Mmh. Donc ça fait partie aussi des choses que j'apprécie, c'est-à-dire transmettre et accompagner d'autres personnes aussi, ben, peut-être à se révéler à elles-mêmes en faisant autre chose autrement. Mmh. En devenant à un moment donné peut-être leur propre chef d'entreprise. Mmh. Et puis ben ça m'apporte aussi une qualité de vie, mmh. que je n'avais plus.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'amène mes enfants à l'école.
Oui.
Ce que je pense je n'avais jamais fait jusqu'à présent. J'amène mes enfants à l'école, je m'organise, je suis en relation avec des gens, et puis voilà, et puis je leur apporte des informations et un conseil, et moi, ça m'intéresse. Donc mon rôle de Wonder Woman, il est peut-être là à nouveau, mais pas surdimensionné. C'est simplement aider les gens à ma façon et avec ce que je sais le mieux faire.
Et est-ce que tu te sens plus féminine ?
Oui, ça va.
Donc, tu es dans une énergie plus féminine aujourd'hui, plus intuitive, plus réceptive.
Oui, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus réceptive. De toute façon, on travaille avec des confrères qui font ce métier-là. On travaille beaucoup sur le développement personnel, sur ses propres objectifs de vie. Parce que il est important de savoir à un moment donné pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qui va faire que l'on va se lever ou pas se lever le matin quand on est indépendant. Alors, c'est pas le pourquoi forcément de la quête financière, mais derrière, il y a d'autres pourquoi. Voilà, donc à la première réunion d'information, la question qui nous a été posée, c'est vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous faites avec ? Alors, certains n'avaient pas forcément de réponse immédiate. Moi, j'avais les réponses. Et donc, voilà, donc c'est mes objectifs de vie. Ils sont écrits. Et après, moi, je mets en place les choses pour atteindre ces objectifs de vie. Quoi. Donc oui, le côté intuitif est beaucoup plus là. C'est un métier où je suis en relation avec des gens sur des choses qui sont importantes pour eux. Donc, il faut que je sois dans un état d'esprit positif et serein. Et les jours où je me lève, où je vais pas très bien, ce qui arrive à tout un chacun, ben là, j'en prends conscience. Si je le sens pas, ben je préfère décaler mon rendez-vous pour être plus sereine, plus ouverte. Je prends du temps pour moi. Voilà, c'est aussi important, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que tu es happy, d'une façon générale? Bon, ça tombe bien. C'est le troisième extrait musical que tu as choisi. On écoute Happy, Pharrell Williams.
Bring me down, can't run.
Happy, Pharrell Williams. Alors, qu'est-ce qu'elle illustre pour toi, cette musique, Stéphanie?
Ben, elle illustre mon état d'esprit, ce qui est pas mal déjà.
Oui, ça c'est sûr.
C'est bien. Et elle illustre également, ben, c'est la chanson qui a été mise à la convention avec le partenaire avec lequel je travaille et qui illustre tout à fait la dynamique de ma nouvelle activité dans laquelle je m'inscris avec mes autres confrères et le partenaire avec lequel je travaille.
D'accord. Voilà. Donc c'est la musique du moment pour toi.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Alors Stéphanie, si nos auditeurs ont envie d'avoir des conseils en fiscalité, en patrimoine, donnés par une chef d'entreprise heureuse et bien dans sa nouvelle vie, comment font-ils hein, pour te joindre?
Ben, ils peuvent m'appeler directement, 06 84 15 48 35. Où ils peuvent me contacter par mail, c'est s.marsan31@wanadoo.fr.
D'accord, donc on reprendra tes coordonnées dans le podcast de l'émission. Ouais. Je te remercie beaucoup Stéphanie pour ton témoignage.
Ben, merci.
Puis je te souhaite de continuer à marcher sur ton chemin, à la découverte de toi-même et à te retrouver toujours davantage.
Bah oui, c'est déjà en bonne voie.
Bon. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez réécouter cette émission rediffusée samedi à 21h. Sinon, quand vous voulez, sur le podcast cfmradio.fr, rubrique les émissions, émissions ondes positives. Vous pouvez aussi me contacter par mail, dorothée.alio@hotmail.com et me retrouver sur Facebook sur la page ondes positives CFM Radio. Passez une très bonne semaine et à mardi prochain.